Les éditions Thélème présentent un enregistrement intégral de La saga Fille d'Irlande, tome 1, Le secret des Devril, de Santa Montefiore, lu par Jacqueline Berses. Pour mon cher ami, Tim Kelly, sans les conseils et le soutien duquel je n'aurais jamais eu le courage d'écrire ce livre.
Je suis Maggie O'Leary. Lord Devril, vous m'avez causé ainsi qu'à ma descendance un tort impardonnable en vous appropriant nos terres et en brisant notre volonté. Tant que vous n'aurez pas réparé ce tort, je vous maudis, vous et vos héritiers, et vous condamne à une éternité sans repos dans le monde des morts vivants. Maggie O'Leary, 1662.
Prologue. Comté de Cork, Irlande, 1925. Les deux petits garçons, au visage sale et aux genoux écorchés, arrivèrent au portail rouillé par un sentier à peine visible qui partait de la route principale et décrivait une courbe paresseuse dans la forêt. De l'autre côté du portail, oubliés derrière les arbres, se dressaient les ruines calcinées du château d'Evril. Naguère le fief de l'une des plus grandes familles anglo-irlandaises du pays, qui avait été consumée par un incendie 3 ans plus tôt. Le mur de pierre sèche qui entourait le domaine s'était effondré par endroits, sous l'action conjuguée de la négligence, de la voracité insatiable de la forêt et des vents implacables de l'hiver. La mousse y avait établi son empire, conquérant jusqu'aux plus hautes pierres où les mauvaises herbes dressaient leurs chevelures hirsutes. Et le lierre, parti à l'assaut de la muraille, en avait envahi des pans entiers, la faisant presque disparaître. Les garçons n'étaient pas impressionnés par la grande pancarte qui menaçait les intrus de poursuite, ni par l'allée sombre et boueuse, à peine visible sous les feuilles moisies et les brindilles accumulées au fil des saisons d'abandon. Le cadenas cliqueta inutilement contre sa chaîne lorsqu'ils se faufilèrent entre les battants du portail. Au sein du domaine, dans la forêt détrempée, le silence régnait. L'été avait fui, chassé par la pluie froide de l'automne et son cortège de bourrasques glacées. Les rhododendrons rouges qui bordaient l'allée des deux côtés étaient maintenant envahis par un fouillis d'orties, de fougères et de buissons de laurier. Les garçons passèrent devant en courant, ignorant ce que représentaient ces arbustes. Ignorant que cette même allée voyait autrefois passer des carrosses qui venaient déposer la fine fleur du comté au magnifique château dressé au-dessus de la mer. Aujourd'hui, ce n'était plus qu'un chemin de terre, et le château, un amas de ruines. Seuls s'y risquaient désormais les pigeons et les corbeaux, et des petits garçons intrépides en quête d'aventure, qui ne craignaient pas d'être surpris dans ce lieu oublié. Ils s'élancèrent, tout excités, dans les herbes folles, pressés d'aller jouer dans les vestiges de ce qui avait jadis été des salons grandioses. Le majestueux escalier avait depuis longtemps disparu et les cheminées centrales s'étaient effondrées à travers le toit, formant une montagne de briques que les gamins durent escalader. Dans l'aile ouest, une partie du toit rescapée, réduite à de solides poutres appuyées sur 2 murs subsistants, évoquait la cage thoracique décharnée d'un animal géant abandonné aux éléments. Les garçons étaient trop dissipés pour ressentir la tristesse qui planait sur les lieux, ou pour entendre les échos plaintifs du passé. La jeunesse est sourde à la nostalgie comme à la mélancolie, et à la conscience de la mortalité qu'elles induisent. Les fantômes qui résidaient là, pleurant la perte de leur demeure, et la brièveté de leur existence était pareille aux bourrasques qui soufflaient de la mer. Les garçons les entendaient gémir par les fenêtres vides, siffler dans les débris des cheminées, et ne ressentaient qu'un frisson d'exaltation, car, loin de diminuer leur plaisir, l'étrangeté l'augmentait. Pour l'attention qu'ils leur portaient, les fantômes auraient aussi bien pu rester entre eux. Au-dessus de la porte d'entrée, l'un d'eux distingua une inscription en latin, noircie par la